Allô, allô. Est-ce que ça marche?
Oui.
Ok, je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue et merci beaucoup d'être venu. Je m'appelle Ariana Moscott-Frère et je suis conseillère en recherche chez Ontario Créatif. Je suis bien heureuse que vous ayez tous pu vous joindre à nous ce matin dans le cadre de notre première séance des petits déjeuners qui se déroulera complètement en français. Et c'est la deuxième fois que nous sommes à Ottawa. Notre dernière visite remonte à il y a 3 ans, alors nous sommes contents d'être à nouveau réunis ici avec vous. MJ Wheeler et Bernard Bourret d'Ontario Créatif se joignent également à moi aujourd'hui. Alors nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires promotionnels, Investir Ottawa, le Bureau du cinéma d'Ottawa, la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa et plusieurs organisations de l'industrie qui nous ont aidés à passer le mot. Merci beaucoup. Et je veux remercier tout particulièrement notre principal partenaire, Investir Ottawa, qui nous a généreusement offert cette salle et qui nous a aidés avec la planification de cette rencontre. Alors, David, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Ah, parfait. OK, je vais maintenant donner la parole à David, that's right, de chez Investir Ottawa, pour ses remarques.
Merci. Et bonjour tout le monde. Bonjour. De la part d'Investir Ottawa, je vous souhaite la bienvenue au cours Bayview et à cette table ronde sur le marketing et l'exportation des médias francophones. Merci à Ontario Créatif, à Ariana, MJ et Bernard pour la planification du matin, ainsi qu'à notre panel d'experts. Je suis certain que le matin sera très fascinant. Avant de commencer, nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. La mission d'Investir Ottawa est de faire d'Ottawa l'endroit idéal au Canada pour démarrer et faire développer une entreprise. Notre PDG, Mike Tremblay, vise à cultiver un environnement entrepreneurial à Ottawa axé sur les technologies innovatrices en blockchain, santé, véhicules autonomes, intelligence artificielle et bien sûr en médias interactifs. La région d'Ottawa possède la deuxième plus grande représentation du talent en sciences et ingénieurs en Amérique du Nord, après la région de Silicon Valley. Il y a presque 70 000 employés dans les domaines de haute technologie. 4 institutions d'éducation supérieure se trouvent dans la région, y compris l'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue en anglais et en français au monde. La ville d'Ottawa est idéale comme communauté pour l'investissement et la cultivation d'entreprises et l'équipe d'Investir Ottawa est à votre service. Maintenant, je passe la parole à Ariana qui va présenter notre modérateur. Merci.
Okay, merci, David. Okay, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ontario Créatif, on était anciennement la SODIMO. Nous sommes une agence du gouvernement de l'Ontario. Notre mandat vise à bâtir l'économie créative de l'Ontario et en particulier des industries de l'édition des livres et des revues, du cinéma et de la télévision, de la musique et des médias interactifs numériques. Nous accomplissons cette tâche par l'entremise d'une gamme de services, de subventions, de crédits d'impôt et d'événements comme celui d'aujourd'hui. Alors, nous espérons que cette séance vous permettra de créer de nouveaux liens, de rencontrer de nouvelles personnes et de stimuler de nouvelles idées. Et le sujet de ce matin est leur histoire de réussite relative au marketing et à l'exportation de contenus francophones et bilingues. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la présence de Kevin Sweet pour nous aider à avoir une conversation stimulante et à apprendre de nos panélistes chevronnés. Originaire de Buckingham, Kevin détient un diplôme en production télévisuelle du Collège algonquin et un baccalauréat en communication de l'Université d'Ottawa. Après avoir été chroniqueur culturel chez Rogers, il fait le saut chez Radio-Canada. Il compte 17 ans d'années d'expérience comme journaliste culturel, dont 13 pour la Société Radio-Canada. Il est actuellement reporter culturel à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau. Aujourd'hui, nos panélistes sont Marie-Pierre Guerrier-Py, des productions Slalom, Lara Mainville, des presses de l'Université d'Ottawa, et Élise Roiron de la Canadian Independent Music Association et Music Ontario. Et malheureusement, Catherine Aguérin de la Fiducie nationale du Canada et du magazine local a eu un imprévu et elle n'a pas pu se joindre à nous. Alors, merci beaucoup, Élise. d'avoir accepté de partager quelques informations sur les activités de la CIMA. Alors, je vais laisser le soin à Kevin de présenter Marie-Pierre. Et maintenant, veuillez s'il vous plaît accueillir avec moi Kevin Sweet et nos panélistes. Place à Kevin.
Faut-tu l'allumer? Bon, là, c'est allumé. Très content d'être ici ce matin avec ce panel d'expertes, parce que c'est un panel entièrement féminin. Donc, très content d'être avec vous ce matin. mais je vais vous laisser le soin à vous de vous présenter versus que ce soit moi. Donc, on connaît déjà vos noms, mais nous parler un peu de ce que vous faites, vos entreprises et tout ça. Donc, je vais commencer avec vous, Marie-Pierre.
Bonjour. Alors, Marie-Pierre Yariipi, je suis productrice à Ottawa. J'ai formé ma boîte, ça va faire bientôt 11 ans. Et avant, ça fait 25 ans que j'œuvre dans le domaine de la production télévisuelle et numérique. Alors, on est basé ici, on fait de la série, beaucoup de séries en fait, documentaires. Documentaire d'aventure, un peu d'histoire, de la fiction. J'adore faire de la jeunesse. Slalom est formé d'une équipe formidable de femmes, mais on fonctionne beaucoup avec beaucoup, beaucoup d'hommes. je dis toujours que ma force, c'est mes équipes. Donc, on fait de la série jeunesse aussi et de la fiction adulte. C'est ça.
Est-ce que vous êtes capable peut-être de nommer une ou deux séries qu'on connaîtrait?
Ben oui. J'ai débuté au tout début, je travaillais pour les productions Charbonneau. Mm-hmm. Avant ça, j'ai fait mes études ici en administration et à l'Université d'Ottawa en communication. Et j'ai aussi travaillé longtemps avec les productions Charbonneau, j'ai travaillé pour l'ONF. J'ai travaillé comme pigiste et après, c'est ça, Charbonneau pendant plusieurs années. Et après, j'ai repris des productions. Et les dernières productions qu'on a faites, c'est une série qui s'appelle Médiéval, à tous les matins à Radio-Canada.
Série jeunesse,
6 à 9, qui était d'ailleurs en nomination pour meilleure série jeunesse au dernier Gémeaux. Merci. Puis, et tout prochainement, en fait, lundi prochain, le 12 novembre, une nouvelle série fiction sur les ondes de super écran qui s'appelle La malédiction de Jonathan Plourde. Mmh. C'est 6 heures. Mmh. Et ça sera à VRAC probablement en septembre prochain.
Tournée entièrement ici.
Je me fais toujours un grand devoir On dit toujours avec le réalisateur avec qui je travaille beaucoup, Martin Cadotte, que notre ville devient un personnage. Mm-hmm. Je trouve ça très important. Puis dans les dernières critiques, justement, de La malédiction de Jonathan Plourde, les journalistes à Montréal l'ont beaucoup repris, que ça faisait du bien de voir une série francophone qui n'était pas tournée sur le plateau, le Mile End, ou je ne sais pas trop, à Montréal. Donc, et que ça faisait vraiment une belle toile de fond. Puis on l'a même comparé à des images de Londres. Fait qu'Ottawa ressemblerait à Londres.
Mm. C'est important de créer notre propre mythologie dans nos centres urbains. Merci beaucoup, Marianne. Lara, que font les presses de l'université?
Alors, les presses de l'Université d'Ottawa.
Oh!
Oui? OK.
Il faut projeter. Il faut parler fort.
Les presses de l'Université d'Ottawa. Vous voyez, moi, je travaille dans le milieu du livre et non pas dans le domaine public. on est les seules presses universitaires bilingues en Amérique du Nord et on publie entre 25 et 30 livres chaque année. On est ici sur le campus de l'Université d'Ottawa, donc en plein centre-ville d'Ottawa, mais on fait rayonner nos auteurs un peu partout dans le monde. Cette année, donc, on publie des livres savants, mais on publie également des ouvrages qui sont un peu plus grand public. On vient de publier cette année un guide pour les étudiants universitaires, mais aussi collégiaux, et même, vous savez, les étudiants un peu futés au secondaire qui veulent réussir leur carrière et qui réfléchissent déjà à ce qu'ils vont faire dans leur vie. Donc, décrocher son diplôme et l'emploi rêvé. On a un volet un axe qu'on essaie de développer dans la communauté, parce que je trouve que c'est important de jouer son rôle de citoyen responsable dans la communauté dans laquelle on est. mais on agit également au plan national et au plan international. Et on publie à la fois en français et en anglais. Le volet français, on a une mission toute particulière à l'Université d'Ottawa et donc aux presses également. Et c'est-à-dire qu'on souhaite soutenir la francophonie canadienne, non de façon exclusive. Si on faisait ça, je pense que ce serait, on se ghettoiserait automatiquement. Mais ce que je veux faire, c'est faire rayonner et faire avancer les dossiers et dynamiser. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille présentement du côté francophone. Et ça donne des résultats parce que, si je peux me permettre, on a gagné plusieurs prix cette année. On a eu un ouvrage qui était en nomination au prix du gouverneur général cette année en traduction. On a eu un ouvrage qui était finaliste au prix du Canada. Donc ça, c'est le prix de l'ouvrage savant. Et c'était justement un ouvrage qui portait sur la francophonie, la littérature franco-canadienne. Donc, on est très contents de ça. Et le troisième ouvrage au prix Trillium, finaliste au prix Trillium, donc le prix littéraire le plus prestigieux. Et donc, il y a toute une gamme de... à la base, on publie des ouvrages savants, certes, mais on fait également plusieurs autres choses.
Merci. Élise.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Élise Roiron. Je travaille à The Canadian Independent Music Association, donc oui, une compagnie anglophone. Je suis basée à Toronto, mais je viens d'Ottawa. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa parce que j'ai eu mon bac en psychologie. Et donc là, je suis dans le monde de la musique. J'ai travaillé en politique pour quelques années.
Ça sert un bac en psychologie dans le monde de la musique.
Ben, c'est ça. en fait, après avoir gradué, j'ai travaillé en politique pendant 5 ans à Queen's Park, qui m'a amenée à Toronto. Et ensuite, j'ai décidé de laisser le monde de la politique parce que ce n'était pas pour moi. Et j'ai décidé de travailler dans le monde de la musique. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de parallèles quand même. Donc, je travaille à CIMA. Donc, ce qu'on fait à CIMA, c'est qu'on représente toutes les compagnies qui sont autour, dans l'écosystème des artistes indépendants. Donc, les maisons de disques indépendantes, les gérants, les agents, les festivals. Donc, vraiment, tout l'écosystème. Puis, on est une compagnie nationale. Mais sous CIMA, on a aussi Music Ontario, qui représente les artistes ontariens. Donc, et puis, il y a aussi Music Export Canada, qui est comme une subdivision de CIMA, où est-ce qu'on travaille seulement sur l'exportation de la musique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène nos compagnies canadiennes dans des marchés qu'on a décidé qui des marchés importants pour eux. Et puis, on encourage des rencontres avec les compagnies là-bas. C'est vraiment une bonne occasion pour qu'on on ait de l'information pour ces marchés. On fait des connexions aussi. On essaie d'avoir des deals.
Des ententes.
Des ententes, mm-hmm. Oui. Donc, moi, vraiment, ce que je fais surtout, c'est des affaires gouvernementales, mais donc c'est vraiment ce que je fais en général. C'est tout ce que mon organisation fait. En général, on représente seulement les compagnies anglophones. Il y a l'organisation qui s'appelle La Disque au Québec, mm-hmm. qui représente, donc c'est la même chose que CIMA, mais eux représentent les compagnies québécoises. Donc, il y a beaucoup de francophones, d'artistes francophones qui sont en fait représentés par la disque. Nous, on a comme des maisons de disques, par exemple, qui signent des artistes francophones. Mais en général, c'est vrai que ce que je vais vous parler, c'est en général des artistes anglophones ou des compagnies anglophones. Mais c'est sûr qu'on a un marché, on a des artistes francophones. Et Music Ontario a des artistes francophones aussi qui représentent. Donc, c'est une bonne occasion pour moi aussi de savoir qu'est-ce que vous faites dans votre milieu puis peut-être rencontrer des gens qui sont dans l'industrie de la musique puis voir comment on peut appuyer les franco-ontariens aussi. Donc, c'est ça.
OK. Donc, l'objectif un peu de la discussion ce matin, c'est de parler de l'exportation de produits, de création francophone vers l'étranger. Et donc, dans le but d'outiller les gens qui sont ici ce matin avec des histoires inspirantes ou des outils pour pouvoir réussir de leur côté, je veux commencer par vous entendre sur peut-être des produits dont vous êtes particulièrement fiers, qui ont bien fonctionné au niveau du marketing et de l'exportation. Je vais commencer avec vous, Marie-Pierre.
En fait, quand on parle de succès, pour moi, je voudrais faire une distinction entre le succès de la vente ou le plus d'exportation dans la façon où c'est vu ailleurs.
Le rayonnement.
C'est ça. Alors, le rayonnement. Parce que, là, je vais être plate, là, mais quand on travaille en français, le rayonnement à l'international, c'est plutôt difficile de faire des ventes. Donc, il y a une question qui va venir. Là,
là on va rester dans le constructif et dans le positif. Donc, un produit dont vous êtes particulièrement fier, est-ce qu'il y a selon vous...
Je vais tomber dans le réel trop vite. OK.
peut-être pas notre ballon déjà, quelque chose dont vous êtes fier est-ce qu'il a contribué au succès de ce produit-là?
Oui. Je pense que... le dernier événement dont je suis plus fière, c'est la série médiévale, en fait, qui est une série jeunesse, 6-9. On devrait savoir aujourd'hui si on a notre financement pour la 5e saison. On les fait à coût de 33. Donc, dans les dernières années, l'année dernière, on a fait 65 épisodes. C'est devenu une quotidienne à Radio-Canada. Et ça évolue beaucoup au niveau de la distribution. Et de plus en plus, on cherche après les sous, tout le monde. Les diffuseurs aussi. Alors maintenant, les diffuseurs deviennent souvent nos distributeurs. Donc, on a été remarqués par un organisme qui s'appelle The WIT, qui est en fait un organisme mondial qui est incroyable, qui est recherché par tous les producteurs, diffuseurs, distributeurs à travers les gros festivals à l'international. Puis on a été choisis et présentés à Cannes ce printemps comme une des meilleures séries jeunesse au monde. Avec, par exemple, Dancing in Paris, qui est une coproduction australienne et anglaise, je crois. Donc, quand tu reçois un appel de WIT qui te dit... On vous a sélectionné. On croit que c'est un des meilleurs contenus qu'on a. Puis eux, ils voient tout. Fait que là, tu fais « Ah, c'est incroyable! » Fait que là, tu appelles ton diffuseur, tu appelles le Fonds des médias du Canada, qui sont super fiers. Puis ça, ça crée une espèce d'émoi. Puis dans les marchés, et puis là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en ce moment, il y a plusieurs pays qui veulent faire l'acquisition de la série.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette série-là s'est démarquée, à votre avis?
Je crois que c'est... l'art de raconter une bonne histoire, c'est l'art de bien la montrer aussi. On fait du 6-9, on est allé chercher des enfants. Je voulais une série qui les sortait de leur écran. Je voulais aller...
Mais du 6-9, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi?
C'est 6-9 ans.
OK, 6-9 ans.
Excusez-moi.
Okay, okay. C'est correct.
C'est pour les enfants de 6 à 9 ans.
Non, je veux juste qu'on s'entende que tout le monde a le même...
Oui, bien, en télévision, il y a des tranches. Il y a le préscolaire, il y a le 6-9 ans, il y a le 9-12, et après, il y a l'adolescence et jeune adulte. Alors, puis c'est un grand défi parce que tu parles à un enfant de 6 ans, mais il faut que l'enfant de 9 ans, ça lui parle encore. Donc, on est allé dans l'action, on tourne à l'extérieur. C'est des enfants qui voyagent dans le temps avec des épées, avec un mouvement. Alors, on fait une comparaison de l'histoire. Quand on a commencé nos recherches, on est allé voir l'Université d'Ottawa, Cookie Fianou, qui est une des expertes du Moyen Âge, qui est ici à Ottawa, à quelques kilomètres de notre bureau. Je l'ai appelée, elle nous a accueillis dans son bureau. Fait qu'on on a fait une grande recherche. Donc, ce qu'on dit, on ne se prétend pas être totalement vrai, mais en même temps, les bases sont très, très bonnes. Puis après, bien, c'est de raconter des bonnes histoires, d'avoir des auteurs autour de ça, une équipe de la réalisation, montage et tout. Alors ça, c'est un de nos succès. Un autre de nos grands succès, c'est des séries documentaires qui m'animent beaucoup. On a fait Le rêve de Champlain avec TFO il y a quelques années. Il y a eu plusieurs volets numériques. C'est encore dans les écoles aujourd'hui. C'est encore exporté. Ça a été acheté en Espagne. Et là, on avait fait l'acquisition d'un livre qui s'appelait Le rêve de Champlain de David Hackett Fisher, qui est en fait un Américain qui raconte notre histoire. Et c'est un livre incroyable. C'est presque un roman. Et puis, on l'a mis en image. C'est ça. J'ai des séries aussi Garde-manger, où il y a plusieurs années, on était avec UNI. On est allé faire le tour de ce qui se faisait au niveau de la... qui se démarquait au niveau du bio, au niveau de comment on pouvait, en fait... C'est de faire des rencontres avec des gens et de savoir bien raconter les histoires, en fait, je crois, puis d'y mettre tout notre cœur. Puis de souvent être audacieux. Parfois, on manque notre coup, mais je crois que ça vaut le coup d'aller plus loin.
Lara? Chez vous?
Alors,
le produit dont vous êtes le plus fier.
Ben, j'ai plusieurs bébés. Et puis, je ne voudrais pas faire de jaloux, mais je vais vous parler de certains produits en particulier. Il y a la collection Traduction littéraire qui est, étant donné mon background en littérature, mm-hmm. que j'affectionne particulièrement et qui m'anime beaucoup et qui a aussi un potentiel d'exportation important. C'est-à-dire qu'on publie des ouvrages des œuvres de fiction canadienne en traduction. Carol Shields, par exemple, traduite en français, Margaret Lawrence, mais également les auteurs québécois. Les nouveaux, on a un très, très beau programme, puis je vous invite à aller le découvrir sur notre site web. Mais ça nous permet de donner de présenter des auteurs à de nouveaux publics. Et ça vient vraiment me chercher. Nos distributeurs américains s'intéressent particulièrement à cette collection, qui sont de beaux petits ouvrages qui se lisent bien, qui peuvent être lus par les étudiants en immersion française au secondaire, par exemple. Et c'est une des choses qu'on explorait ensemble. Autre produit qui vaut la peine de mentionner aujourd'hui, c'est nos ouvrages dans la collection Philosophica. Il y a toute une tradition littéraire en philosophie, en français, et puis nous, on reprend, on poursuit dans cette foulée. On vient de lancer justement hier soir Donc je suis, qui est un recueil d'essais de Maurice Henry, un auteur d'Ottawa. Le recueil précédent de M. Henry, qu'on a fait paraître l'année passée, a été finaliste au prix Trillium. Et on a eu énormément de visibilité, puis il y a eu de très belles retombées promotionnelles. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre dans avec le nouveau recueil de M. Henry. Évidemment, on a également plein d'ouvrages plus savants, des manuels qui sont destinés aux étudiants ou encore aux chercheurs, donc du milieu académique. J'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais il y a également, dans certains cas, énormément de besoins. Il y a du contenu original, unique, qui est acheté, qui est distribué un peu partout dans le monde et qui est acheté dans le monde. Je pense à un ouvrage recherche, des manuels de recherche qualitative ou il y en a un en particulier, décrocher son diplôme, qui est aussi accessible en libre accès. Donc, ça veut dire que le PDF est accessible gratuitement. Donc, les étudiants qui ne voudraient pas se payer le livre imprimé peuvent aller le chercher. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire pour ceux qui écoutent. Donc, voilà, on a plusieurs beaux produits, puis on va continuer à développer des outils qui sont utiles et pertinents et qui vont servir au grand public.
Est-ce que c'est facile de percer le marché littéraire francophone avec des traductions? Vous avez mentionné Carol Shields, qui est une auteure anglophone très, très connue au Canada anglais, mm-hmm. mais l'industrie littéraire au Québec a aussi son propre star
bien
système.
Bien sûr.
Est-ce que c'est facile pour vous de percer ce marché-là avec des traductions?
Non.
C'est correct.
Non, mais il faut persister, il faut continuer, j'y crois. Je trouve notamment que, le directeur de la collection fait un excellent travail de curation. Il choisit des œuvres littéraires qui sont très fortes et... Du côté des auteurs québécois, ce sont de jeunes auteurs qui sont en pleine émergence. Et donc, le plus on avance, le plus on va en entendre parler. Et le plus on développe la collection. C'est également une très jeune collection, elle n'a que quelques années. Et donc, c'est sûr que d'introduire une nouvelle collection, ça comporte son lot de défis, il faut travailler. Mais au-delà de ça, la traduction comme telle, c'est pas toujours évident.
Mais il y a beaucoup de potentiel pour la traduction au Canada.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est très chanceux dans une de nos directrices de collection, c'est Laurie Saint-Martin, qui est une des traductrices littéraires très connues au Canada.
Excellent. Là. Merci. Élise, comme vous œuvrez pour un organisme anglophone, par contre, je veux qu'on parle un peu de ce qui se passe en ce moment à Toronto, parce que c'est la Canadian Music Week, et là, il y a une délégation de la France. Pouvez-vous parler un peu de ça, et c'est quoi l'objectif de ça?
Oui, donc en fait, c'est Indie Week, la semaine indépendante de la musique à Toronto. Donc, ce que Simon a fait, c'est qu'on a organisé une export mission, mais on a amené 8 compagnies de France et leurs représentants de France qui sont venus à Toronto pour rencontrer 9 compagnies canadiennes. Donc, ils vont passer la semaine à Indie Week, ils vont passer la semaine avec mes collègues qui vont encourager ils vont organiser des dîners de réseautage et puis des business-to-business meetings. Désolée, je travaille tellement en anglais que comme tous mes termes sont en anglais, fait que, en tout cas. Donc c'est une chance pour eux de comprendre le marché, pour les Français de comprendre le marché franco-ontarien spécifiquement, parce que en général, puis je pense que c'est rien de nouveau pour vous, mais en général, je trouve qu'avec les Français, et j'ai le droit de dire ça parce que mon père est français, ils pensent que vraiment la communauté francophone, c'est seulement le Québec. Mm-hmm. Donc, vraiment, c'est la première place où est-ce qu'ils vont, c'est le premier marché où est-ce qu'ils vont. Donc, on essaie de les encourager de voir les organisations franco-ontariennes ou les artistes franco-ontariens, donc hors du Québec. Et puis aussi pour nos compagnies franco-ontariennes ou nos artistes franco-ontariens, je trouve qu'ils ont des opportunités plutôt limitées des fois quand ça vient avec l'exportation. Donc, c'est sûr, certain que Simon, on essaie de s'améliorer dans ce domaine-là. Donc, c'est une parfaite occasion pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc, on essaie qu'ils vont faire, ils vont peut-être faire des ententes. On espère qu'on va avoir plus d'informations au sujet de leur marché. Donc, peut-être savoir qu'il y a un nouveau festival qui commence l'année prochaine, qui est peut-être un peu plus spécialisé dans un domaine où, par exemple, on vient d'apprendre que les Français, ils aiment surtout la musique comme urbaine, le hip-hop, le rap. Donc là, on essaie de penser la prochaine mission qu'on va peut-être faire en France. On sait qui on va amener, on sait quelle maison de disque on va amener avec nous. Donc, c'est vraiment une parfaite occasion d'avoir cet échange d'informations pour les Canadiens et pour les Français. Et puis vraiment, c'est comme genre un focus sur les compagnies franco-ontariennes. Et puis, il y a aussi un aspect de showcase. Donc, il y a eu un groupe français qui est venu, qui a fait un show, je pense, hier soir. Puis, on a aussi 3 groupes franco-ontariens qui vont présenter pour les Français cette semaine aussi. Donc, c'est une occasion de peut-être avoir une autre entente.
Quel est l'intérêt pour un organisme anglophone comme le vôtre de construire des ponts avec la France et de montrer qu'il y a un public francophone au Canada?
C'est quand même un marché pas mal important pour le marché anglophone et francophone. Mm-hmm. C'est sûr, pour le marché francophone, c'est la région la plus importante. Donc, et puis, oui, on est un organisme anglophone, on représente des compagnies anglophones, mais nos compagnies ont quand même des artistes francophones. Mm-hmm. Donc, on essaie vraiment d'encourager ces connexions. Puis, le plus d'informations qu'on a sur ce marché, le mieux que c'est. Puis aussi, une autre affaire qui est intéressante, c'est que, par exemple, le festival à Reaper Bond, c'est un festival le plus important pour nous quand ça vient à l'exportation. Donc, même si c'est en Allemagne, en général, c'est beaucoup de compagnies anglophones. Il y a beaucoup de délégués de France qui viennent. Ils ont eu, je pense, la France l'année dernière, c'était like the focus country. Donc, c'était surtout, il y avait beaucoup de groupes francophones et beaucoup de compagnies francophones. Donc, c'est une parfaite occasion pour nous d'amener nos artistes francophones puis de faire ces connexions-là à ce moment-là. Donc, vraiment savoir où sont nos marchés, qui va où, puis c'est qui les joueurs dans l'industrie, c'est vraiment important pour nous.
Il y a aussi un marché anglophone pour la musique francophone. Là, on le voit avec des artistes comme Christine and the Queens qui sont capables de faire des tournées un peu partout au Canada et de remplir des salles. Il y a un intérêt des anglophones aussi pour la musique
absolument.
En français.
Puis une autre affaire qui était vraiment intéressante que j'ai appris cette semaine, c'est que, je ne sais pas comment on dit « sync ». « Sync » en musique, ça veut dire que c'est comme un placement d'une chanson dans un film ou dans un programme. Donc, on a appris que les Français, en général, ils choisissent souvent de la musique anglophone pour leur programme, qui était vraiment surprenant pour moi. Mais apparemment, le marché comme nord-américain est très ouvert à la musique francophone. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais su. Donc, c'est comme ça que je dis, comme avoir l'information, de savoir qu'est-ce qui vend où, puis qu'est-ce que les gens écoutent, c'est vraiment important pour nous.
Quelque chose dont on a plusieurs points à couvrir, mais il nous reste environ 13 minutes avant d'aller à la période de questions. Une question qui m'intéresse, puis je vais vous entendre là-dessus, c'est la perception de régionalisme. Est-ce que vous êtes confronté à ça dans vos domaines respectifs?
Je commence, hein?
Oui.
Oui.
Comment ça se manifeste?
Ben, en fait, parfois, les diffuseurs vont vouloir... vont vouloir que les auditeurs se reconnaissent. Puis après, bien évidemment, si tu parles à un public, je vais parler, par exemple, à mon plus grand public, les franco-ontariens, bien, si tu parles à un public franco-ontarien, bien après, on vit probablement les mêmes réalités que d'autres ailleurs, mais du coup, ça devient un peu moins exportable. Mais en même temps, je crois que... Puis là, je vais aller à ta troisième question trop vite, là, mais...
Exportable où, pardon?
Bien, exportable dans le sens du documentaire. Je pense que lorsqu'il est bien fait, il y a un côté humain. Je pense que même si on parle d'une région, on peut le retrouver dans d'autres régions ailleurs dans le monde. Alors oui, c'est exportable. Est-ce que c'est important qu'on se reconnaisse à notre écran? Mmh. Moi, je pense que ça... passe par là en premier. Puis après, ben si on arrive à l'exporter, ben tant mieux. Mais après, si on se reconnaît jamais dans ce qu'on voit à la télé, ben ça devient problématique. T'es en avant de moi, je vais en parler. Le multiculturalisme, tu sais, depuis des années, je veux dire, regardons notre pays, je suis pas convaincue que tout le monde se reconnaît à la télé. Fait que, tu sais, on a un grand mandat de faire ces choses-là en ce moment. Puis en même temps, ben c'est de l'autre côté aussi, nous, en tant que producteurs, on dit, ben il y a peut-être pas les gens, sont peut-être pas encore au rendez-vous tout à fait. Donc, quand on fait un casting, puis on nous demande que ça soit un petit peu moins blanc, ben des fois, on a de la difficulté parce que on a envie de prendre un comédien pour son jeu et non pour qui il est. Donc, mais ça, c'est devenu une réalité. Donc, je m'écarte. Hein.
Alors, comment on surmonte les perceptions et les préjugés de régionnaise? Comment vous faites?
C'est une bonne question. En fait, je crois encore là, ça redevient à être très original dans la façon dont on le présente. Mm-hmm. Et après, une bonne histoire, peu importe d'où elle vient, restera une bonne histoire. Donc, je crois que c'est par là que ça passe.
Excellent. Lara?
Je suis entièrement d'accord. Je pense que dans le milieu du livre, c'est peut-être un petit peu différent de, ou enfin dans l'édition, dans la non-fiction, dans le livre savant.
Et académique. Par savant, on veut dire académique.
Oui.
Parfait.
Oui. Comparativement, disons, au milieu de la télé ou de la musique, où on entend allègrement du radio-radio, du Xavier Nolin, tu sais, où il y a de l'anglais puis du français en théâtre également. Si nous, on publie un livre savant qui est bourré d'anglicisme, ça passera pas. Donc, nous, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention à la qualité de la langue. On peut pas se permettre ce franc-parler dans une œuvre écrite, mais... Et c'est d'autant plus important pour une maison d'édition hors Québec, parce que... Et bon, nous, avec le mot Ottawa, on est au Québec associé à...
Aux anglophones.
Aux anglophones et aux francophones hors Québec. Et donc, moi, je refuse de me... sentir inférieur. On a un excellent produit.
On remet en question vos compétences linguistiques.
Oui, et donc, je pense qu'il faut, le dire, il faut reconnaître cette réalité et il faut aller au-delà de ça, puis faire connaître nos livres à la fois au Québec, mais aussi à l'international. Donc, à la base, c'est un produit qui est de qualité et qui est pertinent, qui va être utile et qui va être exportable. Ça me fait penser, quand je travaillais un petit peu dans le milieu du théâtre, il y avait Michel Tremblay, à un moment donné, qui avait parlé du particulier qui va rejoindre l'universel. Il y a ça également, mais ça, c'est vraiment au niveau du contenu et non au niveau de la forme dans notre milieu à nous. Mm-hmm.
Voilà. La littérature, c'est la même chose que les téléséries. Il faut qu'on entende nos accents pour pouvoir... s'identifier.
Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on a un accent spécifique qui n'est pas un accent québécois...
Qu'on est moins francophone.
Qu'on est moins francophone.
Ou moins
voilà.
Bon.
Ou moins bon. Voilà.
Excusez. Élise, Comment, avec votre organisme, justement, parce que vous avez mentionné, les gens pensent souvent que le Québec, c'est le seul marché. Alors, comment on parvient à les convaincre qu'il y a d'autres marchés que le marché québécois au Canada? Parce que c'est un gros pays, non?
Mais je pense que c'est, entre autres, en faisant des missions comme on vient de faire, en amenant des compagnies françaises à rencontrer nos compagnies franco-ontariennes, en présentant nos artistes franco-ontariens. C'est... Puis en amenant nos compagnies franco-ontariennes à des missions, puis les laisser comme faire leur présentation, puis faire les bonnes connexions. C'est, je pense que c'est pas mal.
Lorsque vous essayez de vendre les artistes franco-ontariens, est-ce que vous sentez des préjugés de régionalisme où les gens ont aussi cette impression que c'est peut-être moins...
Je pense que c'est différent dans le monde de la musique. Je sais pas vraiment, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve que c'est pas... Le régionalisme, on le sent moins dans la musique. Comme par exemple, on sait que quand tu penses à des plateformes comme Spotify, comme tu sais pas d'où l'artiste vient. Comme on sait pas si c'est un artiste canadien ou américain ou tu sais, il parle français, ok, ça on le sait. Puis à part ça, je trouve que encore c'est un des défis qu'on a comme franco-ontarien, c'est que comme dans la musique francophone, c'est que il faut que l'utilisateur cherche, il veut entendre de la musique francophone. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier défi. Mais là, une fois qu'ils veulent entendre de la musique francophone, on est tous présentés de la même façon. Mm-hmm. Qu'on soit français ou belge ou canadien, c'est tous présentés de la même façon. Donc je pense que c'est un peu différent que l'industrie du livre ou de la télé dans ce sens-là.
T'ouvre une porte importante que je vais aborder enfin, parce qu'il nous reste 5 minutes avant qu'on aille aux questions, c'est le numérique. Le numérique a changé la façon de faire de tout le monde. J'aimerais savoir comment est-ce que ça joue contre, mais aussi ça peut jouer pour l'exportation de vos produits. Oui, Marie-Pierre, c'est toi qui vas commencer.
En fait, ben, j'ai l'impression qu'on est encore en transition au niveau de nos contenus. Je dis toujours qu'un jour, j'étais productrice de télévision. Aujourd'hui, je suis productrice de contenu. Donc, peu importe la plateforme, ça l'a augmenté le travail de producteur parce que maintenant, si nos contrats sont à peu près épais comme ça, alors qu'ils l'étaient comme ça, au niveau des droits et tout ça. Après, ben, c'est... Pour moi, en tout cas, au niveau francophone, en Ontario, ça reste le même défi. Souvent, c'est le distributeur qui va prendre les droits, va prendre les droits numériques. Et puis, quand il en fait bon usage, c'est formidable. Et après, ben, c'est comme dernièrement, une série qu'on avait faite, toi et moi, qui avait été en ondes et tout, a été achetée par Netflix. Donc, c'était une super nouvelle. Donc, notre 3 années se retrouvent sur Netflix jusqu'au printemps prochain. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est un nouveau joueur, c'est intéressant, mais il n'y a pas encore de modèle d'affaires autour de ça. Donc, comment on paie, qui veut payer, la nouvelle génération se désabonne du câble, mais en même temps, qui va payer pour ces contenus-là qu'on va produire? T'sais? Donc, ça se fait avec des plateformes, des diffuseurs en font. Mais encore là, c'est pas le 7,99 par mois qui va payer pour tous ces contenus-là. Donc, c'est encore un grand défi.
Est-ce que la découvrabilité est aussi un enjeu? Parce que, bon, le web, il y a de la place pour tout le monde, mais comme il y a de la place pour tout le monde est là. Est-ce que c'est difficile d'être découvert? C'est ça que je veux dire par découvrabilité.
Oui, bien, ça, c'est le nouveau terme là, de la découvrabilité la dernière année. Je pense que je suis allée à 6 conférences sur la découvrabilité. Oui. Après, ben, je veux dire, c'est une mer. Et là, tu dois aller rejoindre ton public au bon endroit. Alors, comment tu le fais? Avec quel outil? Encore là, c'est des argents que tu dois investir. Et de quelle façon tu peux le faire? Ben, je veux dire, c'est ça, c'est la découvrabilité. Mais en même temps, est-ce que ces gens-là que tu vas rejoindre sont prêts à payer? Et qui prend le terme? Fait que là, je veux dire, c'est encore en transformation. Il y a quelques années, on était à Banff, il y a environ 8 ans, on disait la télévision « Television is dying ». Je pense pas que la télévision est morte.
Au contraire.
Mais en même temps, c'est juste qu'elle est consommée de façon différente.
Lara, dans le milieu de l'édition, la question qui vient en tête, à un moment donné, on pensait que le numérique allait tout bouleverser, mais en fait, depuis les dernières années, les liseuses, c'est pas aussi populaire qu'on aurait pensé. Est-ce que vous êtes encore bouleversé par le numérique?
Oui, et on va continuer de l'être. Mais savez-vous que ce qui se consomme beaucoup sur des liseurs, c'est des livres qu'on ne voudrait pas forcément que... Tu sais, dans l'autobus, on ne voudrait pas nécessairement...
50 Shades of Grey.
Mais non, c'est sûr que ça transforme tout et ça ouvre d'énormes possibilités. La découvrabilité est extrêmement importante, mais il y a un niveau de... Il y a un nivellement. Il y a une... vers le haut, je dirais, qui permet, quand on fait bien notre travail d'éditeur et de diffuseur, on peut facilement trouver nos livres en faisant une recherche Google, etc. Mais au-delà de ça, c'est tout le potentiel qu'on n'a pas encore fini de découvrir, le potentiel de nouveaux produits, des enhanced e-books avec plein de produits de multimédia qui est incorporé au livre pour venir augmenter la valeur pédagogique ou autre de nos livres. Et l'autre chose, c'est que nous, étant donné que certains de nos livres sont très, très précis dans leur contenu, on peut facilement aller rejoindre un chercheur qui s'intéresse à la littérature franco-ontarienne en Australie, disons. Avant, ça coûtait une fortune envoyer un livre là-bas. Maintenant, avec l'impression à la demande, on peut facilement juste le faire imprimé en Australie, est envoyé, ça coûte 5 $ le faire livrer plutôt que 45 $. Donc, ça aussi, ça change beaucoup de choses.
Bon, l'industrie de la musique entièrement bouleversée par le numérique.
On a été bouleversés, je pense, il y a 20 ans. C'est comme vraiment, ça fait vraiment longtemps qu'on a été bouleversés. Fait que là, nous, on se remet, là, comme ça. Ça va beaucoup mieux dans l'industrie. Donc, oui, comme tu as touché dans la découvrabilité, c'est quelque chose qu'on essaie de savoir comme vraiment c'est quoi notre position sur ça. Donc, les côtés positifs, c'est que maintenant, on travaille dans une industrie globale. Donc, c'est
l'exportation est plus facile.
L'exportation, exactement. Maintenant, quand tu lances une chanson, puis elle est partout autour du monde, immédiatement. Donc, le marché est aussi quand même pas mal saturé parce que n'importe qui dans la cave de sa grand-mère peut enregistrer une chanson puis aller maintenant partout. Donc, c'est vrai qu'il est complètement saturé. Donc, vraiment, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire sûr que notre musique est présentée aux Canadiens, par exemple? Donc, une des choses que je suis en train de travailler dessus, c'est les règlements. Vous savez que le CanCon Regulation,
le
contenu canadien créé par les Canadiens, en tout cas. Donc, les radios, ils ont des règles qui doivent jouer un certain nombre de
un pourcentage de
chansons canadiennes. Donc là, une des questions qu'on se demande, c'est est-ce qu'on voudrait les mêmes genres de réglementation pour des plateformes comme Spotify ou Apple Play ou des choses comme ça. Donc, on essaie de savoir, mais on n'est pas certain si c'est une bonne chose pour nous, si ce n'est pas une bonne chose pour nous. Donc, on ne veut pas être, we don't want to be ghettoized, par exemple. Donc, on ne voudrait pas avoir une playlist canadienne, mais est-ce qu'on voudrait, par exemple, si l'utilisateur est en train d'écouter écouter Spotify comme une radio, donc juste une série de chansons qu'il ne choisit pas, par exemple, est-ce qu'on voudrait peut-être que chaque 10e chanson soit une chanson canadienne? Est-ce que c'est quelque chose qui serait bien pour nous? Donc, c'est des affaires comme ça qu'on essaie de penser, à quoi on pense. Mais aussi, une autre affaire qui est extrêmement bonne pour l'industrie de la musique, c'est qu'on a tellement d'informations maintenant grâce à des plateformes comme Spotify. Donc, maintenant, si moi, j'enregistre une chanson puis je la mets sur Spotify, j'ai accès... comme je sais exactement qui écoute ma musique et dans quel marché. Donc, ça va peut-être m'aider, comme si, disons, je planifie ma tournée. Mais là, je peux savoir qu'en fait, au Japon, on aime beaucoup ma chanson. Fait que là, je vais aller au Japon. Donc, ça t'aide à planifier ta tournée. Tu sais où sont tes fans. Fait que avoir accès à cette information, c'est vraiment important pour nous. Puis c'est vraiment quelque chose de positif.
Et sur les plateformes comme Spotify ou Audible, il y a de plus en plus des audiolivres.
Ouais.
Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mentionné ça dès le départ. Oui, la numérisation, c'est l'audiolivre en ce moment. C'est
très
vraiment
populaire.
Ce vers quoi tous les éditeurs s'en vont.
Parfait. Merci. On va maintenant regarder vers les gens dans la salle. Et je m'amusais à dire quand je suis arrivé, on n'est pas à la Maison-Blanche, vous avez le droit de poser vos questions. on va pas vous enlever le micro et je vais pas vous accuser d'être une mauvaise personne. Mais identifiez-vous quand vous allez poser vos questions, s'il te plaît, et avec qui vous êtes, s'il te plaît.
Mon nom est David Elisma de CNVTV. Le sujet de la discussion aujourd'hui, c'était de, vraiment au niveau de l'exportabilité et du contenu francophone. Mais je voulais savoir, en soi, pour la francophonie, est-ce qu'on parle seulement de la France ou on parle vraiment de la francophonie à l'international? Parce que j'ai beaucoup entendu France, mais j'ai pas entendu les autres pays francophones, là où même quand on dit que la francophonie, la moitié de la francophonie est africaine.
Oui,
donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des histoires de succès dans ces marchés-là aussi?
Très bonne question. Marie-Pierre?
Oui. Oui, absolument. En fait, très bon point. Les Français, en fait, sont probablement ceux qui achètent le moins nos contenus canadiens francophones. Parce que, en fait, il faut le traduire en anglais, puis après, eux, ils vont le mettre en français, leur français. Donc, ouais, c'est ça. Ils nous comprennent pas, puis c'est comme ça. Mais il y a la Belgique, il y a l'Afrique. Chez Slalom, toutes nos séries documentaires qu'on a fait à date, 100% ont été achetées par TV5 Monde. Alors, nos séries sont diffusées partout où il y a des pays francophones au monde. Je parle de Carte-Manger, La Ruée vers l'or, Le rêve de Champlain. Ce sont des séries qui ont été achetées pour des 5 ans et j'ai des copains qui vivent à Dakar, puis j'ai reçu un texto, Marie-Pierre, vous êtes à la télé, puis tout ça. Donc, tu sais, tu dis que t'es rendu là, c'est quand même assez incroyable. Puis oui, il y a un marché.
On le sait que il y a une très forte croissance démographique en Afrique et puis c'est un des marchés très importants qu'on est en train de cibler et qu'on va développer davantage au fil des ans. L'Europe francophone, bien sûr. Il y a également les pays de la francophonie ailleurs ou encore, je pense, par exemple, dans notre cas, il y a les universités aux États-Unis qui ont des départements de lettres françaises ou de littérature comparée. Puis, comment est-ce qu'on peut faire? Ou encore des programmes d'immersion, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et comment est-ce qu'on peut faire pour aller rejoindre tout ce beau monde-là puis faire connaître nos livres? C'est, je pense, la clé du succès, c'est à la fois de travailler avec les associations qui sont là sur place, les agents sur place, mais aussi de travailler de façon collaborative avec nos associations d'exportation et tout. Voilà.
À CIMA, nous, on travaille avec des compagnies anglophones en majorité. Donc, on ne cherche pas les marchés qui sont peut-être les marchés francophones, on cherche juste les marchés les plus populaires pour nous, les plus... Donc, nous, vraiment, c'est les États-Unis, l'Angleterre et puis Latin America. Donc, vraiment, c'est nos trois macro-marchés.
Présentez-vous, s'il te plaît.
Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Maurice Djossou.
Parlez plus près dans le micro, s'il te plaît.
D'accord. Mon nom est Jean-Maurice Djossou. La question qui a été posée et puis les termes employés... En fait, m'amène à intervenir sur le contenu positif du mot régionalisme. Et parce qu'en réalité, le régionalisme est perçu de façon négative ou présenté de façon négative. Mais il y a un régionalisme positif dont on a parlé un tout petit peu, c'est le régionalisme international. Donc, il y a le régionalisme infranational et le régionalisme supranational, et qui est également un régionalisme international. Et dans mon livre et sur l'Afrique, le GATT et l'OMC, sous titre « En territoire douanier et région commerciale », publié par les presses de l'Université Laval à Québec et l'Harmattan à Paris, et le livre a permis de mettre l'accent sur le contenu positif, non seulement du régionalisme international, puisqu'il s'agit de l'Afrique, mais aussi de la francophonie en tant qu'espace de création et espace de diffusion. Donc, l'ouvrage a été distribué dans tous les pays francophones du monde et donc présent sur tous les continents. Et donc, de ce point de vue, la coédition permet de donner un contenu positif au régionalisme en dépassant les frontières. Donc, c'est ce premier point sur le régionalisme. Donc, un contenu positif au régionalisme permet d'asseoir et l'assiette et la base territoriale et du marché de l'édition, de la création. Mais par-delà la base territoriale, il y a ce qu'on appelle aussi la déterritorialisation, concept que j'ai également employé. Mais déterritorialisation, c'est cela qui a amené la numérisation. Et je vais en finir avec cela. Donc, mon ouvrage est présent sur tous les continents, mais j'ai constaté tout récemment aussi que sur Amazon, il y a l'ouvrage qui a été reproduit et c'est présent. Et j'ai vu aussi qu'il y a un livre audio au Danemark avec mon livre Un ouvrage savant, par ailleurs. Bon. Mais je fais également la création littéraire et la traduction littéraire m'intéresse avec les presses de l'Université d'Ottawa. Merci à vous.
Merci. En attendant l'autre question, je veux juste vous lancer sur une question qui me vient en tête parce qu'un mot qu'on utilise beaucoup à Radio-Canada en ce moment, et je veux vous entendre là-dessus, c'est la co-création. Il parlait, monsieur, de coédition. Oui. Est-ce qu'il y aurait est-ce que l'exportation aurait plus de succès avec de la co-création? Quel est le rôle que joue la co-création au sein de vos entreprises?
Okay. Chez nous, ça s'appelle la coproduction. Okay. Et je dirais que 75% maintenant de nos productions sont en fait en coproduction. Alors, il faut être original dans le financement, il faut être original aussi dans les idées, dans la création. Puis je crois aussi même, je regarde au niveau de Montréal, les compagnies, des gros producteurs se mettent même ensemble pour raconter des histoires, faire des productions de plus en plus. Donc, ça le devient pour être original. En même temps, plus tu as de créateurs, plus tu as de points de vue de différents lieux, différents milieux, je pense que ça enrichit ton histoire. Et puis, au niveau de la production, bien, de pouvoir aller chercher des talents dans différents endroits, de faire des structures financières qui deviennent hyper compliquées. Bernard. Avec de la coproduction, des crédits d'impôt et tout ça, mais c'est la voie du futur, en tout cas dans notre milieu, c'est de la coproduction, de la co-réalisation.
Lara, Élise?
Dans le milieu littéraire, ça s'appelle de la coédition, puis oui, absolument. Et nous, on en fait de plus en plus. Il y a quelques années, on avait fait une coédition avec les presses universitaires de France. Là, on est en train d'explorer d'autres avenues, et puis dont je ne peux pas parler parce que c'est en développement. Mais c'est tout à fait utile, important, et ça permet d'aller beaucoup plus loin, de faire connaître un ouvrage qui a un potentiel à l'international, mais qui n'aurait peut-être pas tout le soutien de la promotion des gens qui sont là sur place. Et donc, en travaillant avec d'autres éditeurs dans d'autres pays, on peut à la fois prendre nos sous puis aller beaucoup plus loin avec un seul livre, oui, quand on est deux plutôt qu'un. Et puis aussi, ça aide énormément point de vue distribution.
Donc, dans le monde de la musique, c'est sûr que c'est important, surtout quand tu penses aux écrivains, comme les gens qui écrivent les chansons. Donc, nous, on fait souvent des comme songwriting camps, pas Sima spécifiquement, mais dans l'industrie. Donc, on va envoyer un Canadien qui va écrire, avec plein d'autres écrivains, auteurs, comment on dit ça?
Auteurs-compositeurs. Okay.
Disons à Nashville, où ils vont écrire une chanson pour Taylor Swift, par exemple. Donc, quand on a un Canadien qui écrit une chanson comme ça, qui peut être comme un gros hit, ça peut être vraiment, c'est vraiment bien pour l'écrivain. Puis en plus, on va avoir des revenus au Canada, comme la propriété intellectuelle est quand même canadienne quand c'est un Canadien qui écrit. Donc c'est super pour nous parce que comme ça revient au Canada. Donc c'est vraiment important. Puis c'est sûr que on aimerait bien que Lady Gaga vienne enregistrer son album ici, mais ça arrive un peu moins souvent. Mais c'est sûr qu'on encourage la coproduction.
Chez vous, c'est coproduction, coédition, puis vous aussi, c'est coproduction. Ouais. Vous aviez une question. Désolé.
Merci beaucoup. Je m'appelle Stéphane. Je suis étudiant finissant en relations publiques au Collège de la Cité. Et je voulais poser une question à Mme Marie-Pierre, qui a parlé de la difficulté de pouvoir avoir la représentativité de la francophonie dans les contenus que vous exportez. Est-ce que vous travaillez avec des écoles de comédie? Parce que vous avez dit que c'est difficile de... Le casting se fait par rapport au talent de comédien, non pas par rapport à appartenir à telle ou telle culture ou bien telle provenance. Est-ce que vous travaillez avec des écoles de comédie pour pouvoir encourager cette sélection?
Travailler, je ne sais pas de quelle façon vous parlez, mais on est souvent en collaboration. Quand on a parti la série médiévale, justement, on a vu plus de... Combien? 986 étudiants. C'est ça. On est allé dans les écoles, puis elle est là, on y arrive, mais on en parle beaucoup, puis il faut en parler, puis il faut que ça devienne présent, mais c'est encore pas une industrie où peut-être, et puis j'écoutais quelqu'un parler, et c'est pas moi qui parle, mais je vais le reprendre, c'est peut-être pas... où on veut aller, en fait, pour avoir du grand succès. Tu sais, quand nos enfants nous disent « Ah, je veux devenir comédien », je connais pas un parent qui fait « Wow! » Tu sais, je suis en arrière de toi. Oui. Alors, et ça vient, tu sais, si on parle au niveau de l'immigration, et t'arrives ici, tu fais des sacrifices, et puis là, tu arrives ici, puis tu as de l'argent pour aller à l'université, puis je vais aller étudier en théâtre. Tu fais ta minute, là. Il y a eu des grands sacrifices qui ont été faits du théâtre, vraiment. Puis c'est pas péjoratif, mais c'est vrai, je veux dire. C'est une réalité. Et le temps a changé. Et puis, c'est pas vrai que maintenant, tu as moins de succès ou c'est ce dans quoi que tu vas étudier qui va te rendre heureux et tout. Alors, je pense que ça part de là. Et là, c'est en train de changer. Et on le voit de plus en plus. Et vous allez le remarquer dans les nouveaux contenus. Maintenant, il y a aussi au niveau de l'équité homme-femme. Je veux dire, on a des pointages maintenant. Mmh. On est de la parité, on est sélectionné, on a plus de pointages selon le nombre de femmes dans une équipe. Je suis entourée de femmes. Je travaille avec des femmes. Mais pour certains postes, parfois, il arrive que c'est difficile. Puis je suis une femme, puis je veux y arriver. Fait que je veux dire, au niveau de la parité, il faut que ça soit 50 à 60 %. Je veux dire, donc, c'est en train de changer, ça va bien, mais je veux dire, c'est un peu la réalité. Mais je vous le dis, là, dans les 10 prochaines années à la télévision, dans les écrans, au niveau numérique et tout, il va y avoir une grande différence.
Une dernière question.
Bonjour, je suis Hugo Thivière. Je suis agent de développement au regroupement des éditeurs franco-canadiens. Moi, c'est une question qui concerne le numérique. Madame Gariepi, tantôt, vous aviez mentionné justement que je crois que les droits, c'est souvent le distributeur. Tu sais, on voit que dans le numérique, souvent, la question... Moi, c'est une question de redevance.
Oui.
On travaille sur un gros projet, nous, de diffusion du livre numérique. Puis on va avoir à réfléchir sur le modèle de tarification parce qu'on a l'impression que le public, quand c'est numérique, c'est quasiment gratuit. Hein. Ouais. C'est ça. Puis nous, on a une grosse préoccupation sur la question des redevances. Puis je me demandais, parce qu'on a l'impression que c'est le tuyau qui prend l'argent plus que les créateurs.
Oui.
Puis je me demandais comment vous envisagez ou anticipez ou même appréhendez cette question-là. Comment vous faites face à cette difficulté ou à ce défi?
Bien, j'ose croire que des gens comme vous vont faire une grande différence dans tout ça pour les créateurs, mais souvent, ce sont des droits au niveau numérique. Là, ça tend à changer. C'est au niveau de la SARTEC pour les auteurs. C'est au niveau de l'Union des artistes aussi. Ou quand tu as une deuxième diffusion, par exemple, à la télévision, ça peut être du 40-60 % de ton cachet, alors qu'en numérique, c'est 4 % pour 4 ou 5 ans. Alors, tu achètes tous les droits habituellement. Quand tu fais l'acquisition, donc on le fait souvent, on va négocier avec le diffuseur une passe à la télé, 40 % ou deux passes, 60 %. On va aller chercher les droits VSD, vidéo sur demande, la VDT, des trucs comme ça. Et c'est du 4 et du 8 %. Alors, on va aller les inclure. Alors, Par exemple, le comédien est déjà payé. L'auteur, il n'y en a pas encore, je crois, ou c'est un petit pourcentage qu'on va chercher. Donc, l'industrie n'a pas été bâtie sur ça. Alors là, elle est en train de se transformer. Au même titre qu'au niveau de la câblodistribution, à un moment donné, le diffuseur, il n'y a pas son retour aussi. Donc, ce n'est pas seulement les producteurs et les auteurs, c'est aussi les diffuseurs. Et c'est pour ça que maintenant, ils se procurent les droits de distribution, souvent à l'étranger. Ils nous aident, et puis, mais il n'y a pas encore de modèle qui existe. Puis, même au niveau de la musique, là, vous dites qu'après 20 ans, ça commence à bien aller parce qu'avant, on vendait des disques, on faisait de l'argent avec ça, puis des spectacles. Maintenant, on ne vend plus de disques. Les gens nous écoutent. Vous avez combien de sous qui sont donnés là, si on est abonné à Spotify, un comédien, un musicien? Là, ça, c'est des peanuts, il ne vit pas là-dessus. Là.
Oui, par chanson, je pense que c'est 0,07.
T'sais, alors, il n'y en a pas de modèle. Alors, c'est vraiment... Et je crois qu'il y a le CRTC qui a un gros travail à faire. Il y a des instances comme le Fonds des médias du Canada aussi qui est en train de s'adapter à tout ça. Et puis après, ça va être aussi aux gens, en fait, de dire... Comment tu vas chercher ton contenu? T'sais, est-ce que tu le pirates? Est-ce que tu écoutes ta musique? Est-ce que tu payes pour ta musique? Parce que si tu ne payes pas pour ta musique, là, à un moment donné, il n'y en aura plus. Parce qu'il n'y en aura plus de musiciens qui ne pourront pas vivre. Alors, nous, la même chose, les contenus télévisuels ou des contenus, des histoires, si à un moment donné, on n'est plus capable de les vendre avec des licences ou de les faire, ben, puis en même temps, c'est la mondialisation. Alors, c'est... Je veux dire, il y a encore des lois au Canada qui fait qu'on peut regarder des contenus canadiens, puis Dieu merci. Mais je veux dire, on se bat, là. Les Netflix de ce monde, là, aller chercher du contenu canadien, là, c'est limité, là, mais vraiment, là. Alors, tu sais, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ben, si, à un moment donné, on parlait de faut s'entendre, faut se reconnaître. Ben, je veux dire, il y a un gros travail qui doit être fait pour que dans 10, dans 15 et dans 20 ans, on soit encore capable de se voir et de se reconnaître puis d'écouter nos histoires.
On va conclure là-dessus.
C'est positif.
Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été là. Là, c'est le temps de faire du réseautage et je crois que nos panélistes vont rester encore un petit peu, faire le tour de la pièce, distribuer vos cartes d'affaires, faites de la co-création. Merci.